Je ne vais pas te demander pourquoi, enfin, comment t'es venue l'idée du roman, parce que j'ai lu l'interview sur ActuSF. J'ai une question, pourquoi un peu de fantaisie dedans, pourquoi un peu de magie, parce que je trouve que le roman se tient bien.
Ah ben c'est une question qu'on me pose souvent. En y réfléchissant.
Bonjour, pour vous présenter la rédaction, qui a fait la même erreur que moi. Donc on avait des mauvais plans. Voilà, moi j'ai fait les photos.
Je pense que c'est une façon aussi de revendiquer le roman comme un roman de genre, en fait, de s'intégrer vraiment.
D'accord.
Il y avait une volonté, je voulais pas faire un roman historique, je voulais faire un roman de fantasy.
D'accord.
Et tout bêtement, il fallait à un moment intégrer une
notion
un peu féerique, un peu magique.
J'ai un café, un
petit. Je peux vous prendre de reprendre ?
Pardon, il n'y a pas de souci.
Allez-y. Donc, la même question.
En parlant fort.
En parlant plus fort, je vais essayer. Donc pourquoi intégrer dans ce roman historique une part de féerique et de magique? Tout simplement pour le revendiquer comme un roman de genre, comme tel. Je ne voulais pas écrire un roman historique, je voulais écrire un roman qui pouvait s'apparenter au genre de l'imaginaire et de la fantasy. Donc à partir de là, sur un cadre historique très fort, j'ai intégré à minima, de façon dimension presque poétique, presque politique, une dimension magique. À la fois un coup de cœur et puis à la fois une surprise pour moi. Quand j'habitais Marseille, quand j'ai découvert l'histoire de cette ville, l'époque donc de la République indépendante pendant les guerres de religion de Marseille, donc de 1590 à 1596, c'est fascinant. C'était une ville, un état dans le royaume français, une ville indépendante. Donc, j'ai vraiment trouvé quelque chose de fascinant dans cette histoire. Vraiment qui méritait d'être raconté, vraiment.
On le dit toujours qu'en histoire, Marseille a toujours été à l'opposé de ce que faisait le reste de la France. Est-ce que c'est également le cas?
Alors, en tout cas, dans ce récit-là, sur cette époque-là, oui, on a vraiment une volonté de se montrer en dehors du royaume, avec des règles différentes, de ne pas faire comme le reste du royaume de France à ce moment-là. Oui, il y a une indépendance, je pense, qui... Au moins dans l'imagerie populaire, même aujourd'hui encore, persiste, et je pense qu'il y a des raisons. Il y a raison.
Je continue. Et un parallèle avec aujourd'hui, à Marseille.
Alors, avant d'habiter Marseille, je vous aurais dit, c'est certainement des clichés. En ayant vécu 3 ans, il y a quand même une particularité marseillaise qui fait que... il y a quelque chose de singulier. Il y a vraiment quelque chose de singulier dans cette ville que je n'ai pas retrouvé dans d'autres grandes villes. Donc oui, il y a encore un peu Marseille la frondeuse, Marseille l'indépendante qui est fière de le revendiquer un petit peu. Un peu, oui. Oui, ouais, tout à fait. Aujourd'hui encore.
Et l'idée d'écrire un premier roman, ça vous est venu comment?
Alors
votre parcours d'écrivain pour arriver à ce...
Alors c'est... Moi je ne suis pas du tout littéraire à la base, je suis scientifique, donc je l'ai abordé comme tel. À un moment, il y a quelques années, j'avais des velléités d'écrire, mais ça ne s'est pas fait, je ne sais pas le moment. J'ai rencontré un auteur il y a 4 ans maintenant, 3 ans et demi, 4 ans, qui s'appelle Mathieu Gaboury, qui est un auteur de fantasy. Je l'ai croisé, on a échangé, il m'a dit « tu devrais écrire ». Ok. Je suis rentré, j'ai dit, l'écriture, ça commence par apprendre à écrire. J'écris des nouvelles, plein de nouvelles. Donc plein ne sont mauvaises, pas publiées, donc je les ai diffusées. Et quand j'ai décidé de quitter de Marseille et de me réinstaller en Savoie, je me dis, là j'écris un roman. Donc je me prends 6 mois pour écrire. Et je pose une méthode, je pose un cadre de travail et j'écris pendant 6 mois. Enfin, 8 mois exactement.
C'était quoi la méthode? Tous les jours un certain nombre d'heures
Voilà, une certaine rythmique, un mi-temps, des périodes de rupture, des moments, une équipe de relecture sur lesquelles j'envoyais ciblé. J'envoyais et une grille de relecture et une grille de retour qui devait me faire. Un travail de réécriture derrière, ainsi ça s'est fait.
Et vous êtes parti d'un synopsis complet de l'histoire ou au contraire un peu à l'aventure?
Alors, absolument pas. L'enjeu... Il y a des gens qui ont besoin de plans très précis et des gens qui ont besoin de rien du tout. Moi, j'ai absolument besoin de rien. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire si je ne me surprends pas. Donc, je n'ai pas de plan. La veille de commencer, j'avais 4 notes. Et j'écris, je n'écris pas de façon chronologique, je n'écris pas de façon détaillée, donc à l'envie. J'ai envie de cette scène-là, un peu comme un, j'allais dire, comme un réalisateur de court-métrage voudrait voir des scènes. J'avais envie de cette scène-là dans ce bar. Là, à un moment, je vois Axel qui parle de cette thématique-là à la roue de fortune. C'est là. J'ai envie de voir l'assassin imaginer l'assassinat de consul Charles de Casso. Je crée cette scène-là. Tac, tac. Et après, il faut que je recolle. Je fais un remontage. Donc, il y a à la fois un travail d'improvisation d'écriture et à la fois un travail de montage qui est presque un montage scénaristique. En plus, j'utilise une dramaturgie qui est propre au théâtre. Donc j'ai besoin, une fois que j'ai mes scènes, de remonter pour qu'il y ait une intensité dramatique que je retrouve comme sur une scène de théâtre. Donc c'est un mélange. Alors là, c'était un peu, c'était comme entre guillemets un peu casse-gueule, parce que c'était la première fois. C'était
chronophage surtout.
Non, parce que c'est ma méthode de travail, donc du coup, au contraire, j'étais plutôt cadré autour de ça. Par contre, contrairement à d'autres, je pense, auteurs qui ont un cadre très fort, il y avait un travail de réécriture énorme. Ça, je le savais.
Justement, peut-être par rapport à ce que tu dis, dans la première partie où il y a des passages de point de vue de personnage en personnage, tu es obligé de réécrire au moins les fins ou les débuts des scènes pour que ça colle ou pas.
Alors non, par contre, ça nécessite deux choses. Ça nécessite de réfléchir au montage, ça bouge parfois entre les personnages les uns les autres, et ça nécessite parfois d'enlever ou de rajouter des scènes. Donc il y a des morceaux, des pans qui tombent, par contre, pour... Mais finalement, j'ai pas eu le problème de raccord, mais j'ai le problème de rajout ou des scènes qui faisaient redondance.
D'accord.
Ça, par contre. Par contre, la scène qui a été réécrite un certain nombre de fois, on va dire, c'est la première. C'est vraiment... c'était une complexité. D'ailleurs, elle est toujours pas satisfaisante, cette ouverture. Mais elle arrive, pour l'instant, elle tient.
Est-ce que tu as lu « Des milliards de tapis de cheveux » d'Eschbach ?
Non.
Parce que la première partie fait penser à ça, mais elle est encore plus liée, je trouve, parce que les points. On voit la dernière étape du point de vue, et la première étape du point de vue suivant raccroche sur la dernière étape du point de vue, en fait.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire ?
La
personne arrive, s'approche de la table, et on passe à la personne suivante qui est à la table et qui voit la personne approcher et qui reprend l'histoire là.
Alors moi, dans ce montage-là, ce qui m'intéressait, c'était pas tant justement que ça se raccroche parfaitement, mais c'est de pouvoir tricher, comme au cinéma. C'est-à-dire qu'on voit toute une scène, un personnage qui rentre dans une salle, qui en ressort, mais pas de reprendre à la fin de la scène du personnage, mais de revenir un petit peu en arrière, de voir un point de vue d'un autre personnage, et tout d'un coup de croiser le personnage au milieu de la scène précédente. C'est ça qui était intéressant. Il y a un film qui l'utilise un tout petit peu, c'est Sin City, dans le premier du Sin City de Miller, qui avait été tourné par Rodriguez. Il y a un peu ce propos-là. Et j'ai repensé après coup aussi dans un film, La Ligne Rouge, ce film de guerre où il y a justement plein de panneaux et plein de points de vue de personnages. On retrouve un petit peu ça, où ça se croise un peu.
Malik,
c'était un Terrence Malick.
Non, moi, je n'ai pas lu le roman, hein, mais quand tu as plusieurs personnages qui parlent à la première personne et qui racontent l'histoire.
On a
de
la
temps en temps, tu prends un mille.
Il y a, on va dire, 4 personnages et demi. Il y a 4 personnages qui sont ancrés dans le récit, qui vont nous faire découvrir les 24 dernières heures de l'indépendance, de la République indépendante de Marseille.
D'accord.
Voilà. Voilà, donc c'est un suspense. C'est Henri IV qui veut reconquérir le royaume, le Sud lui résiste, et donc Marseille. Et ces 4 personnages-là qui vont se croiser à un endroit précis, une espèce de focus qui est une taverne, une auberge, la route fortune, se croisent, pas forcément sans se connaître, vraiment s'appréhender, et quand ils vont repartir, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Chacun dans leur chemin, dans leur histoire personnelle, ça rejoint la grande histoire. On parle au jeu, il y a 4 personnages, plus un cinquième qui est une espèce, qui est presque un cœur comme au théâtre, qui lui intervient à la fin de chaque partie pour raconter l'histoire. Au lecteur, le cadre historique. Voilà, on est autour de ça. Moi, je suis très attaché au jeu et je suis très attaché à sa dimension théâtrale. Il y a des scènes ouvertement, ce sont des scènes de théâtre qui peuvent se lire sur une scène.
D'accord.
Et c'est aussi cette dimension-là qui est importante.
Une ambition historique, quand même.
Complètement.
Et au niveau justement de la partie historique, vous êtes inspiré, du coup, vous avez vraiment un projet d'archives de Marseille et compagnie. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'au final, d'où j'en suis dans ma lecture, il y a finalement très peu de rapport à la ville. Moi, je m'attendais à déambuler dans toutes les villes, à part 2-3 références par-ci, par-là. Je m'attendais vraiment à être beaucoup plus marqué par le côté régional.
Alors, en fait, sur l'histoire de la ville, en fait, sur les événements historiques, c'est très présent. sur le récit. Par contre, pas sur la description de la ville, pour deux raisons. D'une part, des éléments visuels, physiques, c'était très compliqué pour moi. Moi, j'ai travaillé, mon gros visuel, c'était un plan de 1592 d'époque. La ville est toute petite, il y a très peu de descriptions relatives. Donc, on peut réimaginer la ville. Mais la description vraiment des rues, j'en ai très peu. Donc j'ai recherché dans des bouquins même d'époque, il y a très peu de choses qui sont données en visuel. Donc je ne voulais pas tomber de le biais d'avoir des références d'événements historiques assez précis, puis une description qui était juste fantasmée. Donc effectivement, il y a peu d'événements. Par contre, sur la description de la ville, c'est relativement précis. La place où se situe la route Fortune, elle avait vraiment ce nom-là. Les distances sont vraiment les bonnes. Et puis c'est drôle parce que dans ce travail-là, il y a des erreurs. Ayant habité la ville, moi je réinvestis des lieux que je crois exister, en fait, où ils sont dehors de la ville, où ils n'existent pas encore, où la rue n'a pas ce nom-là. Il y a un biais un tout petit peu avec le panier qui n'a pas cette appellation-là, bien sûr, à l'époque. Mais voilà, c'était une façon de tout de suite de marquer la ville. Ouais, de marquer la ville. Ça, c'était volontaire.
C'est le cœur historique de Marseille.
C'est le cœur historique. Complètement, complètement.
Sur le plan de 1592, la ville s'articule, même si elle est beaucoup moins grande.
Ouais.
Comme aujourd'hui, c'est-à-dire.
Ouais. Et c'est drôle parce que sur.
Alors, oui, on... le vieux port, on est là de ce central en fait.
Tout à fait. Il y a le port.
Le mairie, quoi. Ouais.
Et le panier, en fait, abrite des moulins. Des moulins à l'intérieur de ville qui sont protégés, qui sont fortifiés parce que c'est là que. Ouais, ouais.
Et il en reste beaucoup
d'eux. Oui, tout à fait.
Alors moi, une chose qui m'a heurté, justement, c'est que tu parles à plusieurs reprises de Notre-Dame de la Garde, qui à l'époque est une forteresse,
oui.
Mais qui pour un lecteur qui ne connaît pas beaucoup l'histoire, peut prêter à confusion. Et pourquoi tu n'as pas utilisé un autre nom? Pourquoi tu n'as pas décrit un tout petit peu? Je trouve, oui, que c'est vraiment confusant potentiellement.
Alors, entre guillemets, c'est un petit peu voulu. C'est l'appellation qui donne dans les textes et j'ai voulu garder les noms d'origine. Après, c'est vrai que du coup, ça crée un biais tout à fait sur la lecture. Mais c'est vrai que c'était drôle, parce qu'il y a quelque chose autour, quand on réinvestit des lieux qu'on connaît aujourd'hui à Marseille au 21e siècle, quand on se replonge dans cette histoire-là, c'est les mêmes lieux, mais c'est pas les mêmes. Donc ça, c'est drôle aussi. Aujourd'hui, en ayant réécrit le roman, j'ai envie de retourner sur les lieux pour les revoir et me dire « Ah ouais, donc ce lieu-là, aujourd'hui, c'est ça. » Ça, c'est fascinant, je pense. Je ne l'ai pas fait encore, mais je pense que je le ferai.
Aujourd'hui,
la balade
de Marseille. Pourquoi pas.
Tu n'as pas sacrifié un rite inévitable de la fantaisie, qui est la carte. Ça aurait été intéressant de mettre cette carte de Marseille de 1592.
Alors il y a un enjeu qui était très fort pour moi, que ce soit sur la description de la ville ou la description des personnages, j'ai fait volontairement très succinct. Et pourquoi? Je préférais que les gens fassent travailler leur imagination plutôt que leur donner un élément trop précis. C'est évident sur les personnages, c'est-à-dire qu'ils ont des éléments significatifs, physiques ou d'attitude, mais je me mets au défi de vous donner précisément la description de mes personnages principaux. Parce que même moi je ne l'ai pas, mais moi je ne la donne pas. Il y aura peut-être une couleur d'yeux, une attitude proaxiale qui est très grande, qui a tendance à se pencher. On sait que c'est une farde noire assez imposante, on l'imagine un peu musclée, mais on ne sait rien de plus sur elle. Pareil sur Silas, on sait que voilà qu'il arrive d'Afrique du Nord, on sait qu'il a l'air plutôt nerveux, est-ce qu'il est grand, petit Finalement, on ne sait pas. Et je voulais pareil pour la ville. Je voulais que les gens se réapproprient. Comme je le dis souvent, je suis un grand lecteur, moi, avant d'être un auteur. Et je pense qu'il faut laisser sa place au lecteur pour qu'il réimagine. Mettre une carte, mettre des descriptions trop précises, c'est laisser moins de place à l'imagination du lecteur.
C'était une volonté.
Complètement, complètement.
Moi, je découvre totalement le livre.
Oui.
Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de l'histoire?
Oui.
Déjà, pour
commencer. Alors, 1596, guerre de religion. Henri IV s'est converti au catholicisme il y a peu. Il fait la reconquête de son royaume. Et là, le sud lui résiste, et notamment Marseille, qui à l'époque est une république indépendante, dirigée par un consul, Charles de Cassau. Et donc, nous allons vivre les dernières heures de cette République indépendante à travers les yeux de quatre personnages qui vont se retrouver dans la taverne de la Roue de la Fortune. Donc, les quatre personnages étant Axel, une ancienne mercenaire qui maintenant gère cette taverne, un chevalier, Gabriel, qui était converti de force au catholicisme, Armand, un religieux, et Victoire, une femme qui est à la tête d'une guilde peu recommandable de la ville. Et je pense que j'ai une fascination sur la ville. Je pense que le fait d'y avoir habité, j'ai beaucoup réinvesti cette ville, je me suis beaucoup intéressé historiquement. Je l'ai vraiment découverte en y habitant. Et vraiment, elle est bourrée d'histoires et d'anecdotes. Elle est vraiment singulière. La ville elle-même est singulière dans l'histoire de France. Et quand j'ai découvert cet événement-là, cette période de la République indépendante, j'ai trouvé ça tellement en écho avec l'identité marseillaise aujourd'hui, j'ai dit oui, Marseille la frondeuse, Marseille qui ne fait rien comme les autres, Marseille qui revendique d'être à part, je me suis dit mais c'est fascinant. Et ce qui est très drôle, c'est que j'aurais pas dit que c'était Marseille, j'aurais inventé un récit de fantaisie qui me dit oui, dans un royaume, une ville indépendante qui ne veut pas rentrer, on me dit ah mais t'en fais trop. L'assassinat des dernières minutes, les portes qui s'ouvrent, les bateaux qui arrivent avec quelques heures de retard, mais c'est too much, voilà, faut arrêter. Alors que c'est l'historique est vraiment rattrape et plus incroyable en fait que la fantaisie.
Et l'idée, elle vous est venue comment ? Comme ça, en lisant, je sais pas, des livres historiques ?
Oui, en fait, moi je fonctionne par. Comment on dit ? Il y a des choses que je vois, que j'assimile, des choses qui attirent mon attention, puis ça va rester plusieurs mois en tâche de fond, on dit ah, ça c'est intéressant, comment on peut le manipuler, je vais en discuter, je vais revenir dessus, et puis à un moment, voilà, ça va germer, je vais poser les choses sur du papier. J'écris très peu, j'écris relativement vite, et mon envie est très précise, donc quand j'ai décidé de travailler là-dessus, je savais que ça allait vite. Dans ma tête, il y a plein de fils qui se tirent, ouais, donc il peut y avoir ce type de personnage. Donc après, je les tire sur le papier.
Tu sais que Marseille avait déjà joué le bon cheval en jouant en Pompée contre César en 49. Est-ce que ça te donne pas envie d'écrire un petit quelque chose sur le sujet ?
Alors, en fait, je l'ai su après, parce que plein de gens me l'ont cité. Effectivement, ça pourrait être une thématique intéressante. Peut-être à travers plus alors un texte court, mais ça pourrait être intéressant d'avoir un écho. Ouais, tout à fait, c'est une très bonne idée. Là, pareil, je vais le garder dans un coin, ça.
D'accord.
Vous prévu une suite, ou c'est un workshop ?
Alors, il a été conçu pour être un livre indépendant. Après, je pense qu'il y a... vu la période où ça s'intègre, vu le chemin de certains personnages, il y aura encore des choses qui pourraient s'intégrer. Il y a tellement des choses fascinantes. Si on tire un tout petit peu plus loin, on reste en lien avec Marseille, guerre de religion... quelques années plus tard, la nouvelle reine de France, pour son futur mariage à Lyon, va débarquer à Marseille pour remonter de Marseille jusqu'à Lyon. Il y a une histoire fascinante autour de cette arrivée-là, de cette reine qui est détestée des Français, qui arrive à Marseille, qui était justement la ville insoumise. Donc oui, il y a des choses encore à écrire dessus.
Du coup, les prochains projets d'écriture, ça tourne autour de quelque chose en particulier ?
Alors, j'écris très peu, j'écris... vraiment par période. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai envie de repartir sur une trame historique. Alors pas forcément la Marseillaise cette fois, mais ce sera une trame historique, ce sera... oui, je repartirai sur le même schéma.
Toujours un mélange des genres un peu fantasy, fantastique.
Du fantastique peut-être, davantage, mais oui, tout à fait. Mais vraiment, je trouve que de partir sur un événement historique fort... ça dynamise le récit. Je ne suis pas un créateur d'univers, vraiment pas. Mon point d'entrée, c'est d'écrire des personnages, des relations un peu intimes avec des personnages. Donc avoir un cadre historique fort, un récit fort, ça m'aide beaucoup par rapport à ça. Je m'affranchis d'un travail de création d'univers qui est souvent qui est difficile à faire, notamment en fantasy ou en science-fiction.
Un nouveau roman, c'était pas de ne pas refaire entre guillemets le même et en tout cas la même narration, parce que
oui.
Ce qui vient dans celui-là, c'est justement cette narration-là, justement théâtrale, avec des chapitres très courts, et pour moi c'est ce qui a créé la surprise vraiment dans le roman. Et du coup, peut-être la difficulté, c'est de ne pas retomber dans le même, exactement dans le même schéma, et du coup de presque refaire le même.
Alors oui.
Est-ce que c'est une narration qui est particulière à laquelle tu tiens d'arriver à trouver un.
Alors moi je vais faire une analogie du théâtre. Moi j'étais comédien. On dit toujours la première est quelque chose de magique et la seconde est toujours un raté parce que on a la confiance de la première, on pense que ça va bien se passer, puis il n'y a pas d'énergie, ça marche pas, tout ça. S'il y a un deuxième roman, il sera moins bon, je le sais, enfin, je l'assume parce que je suis en recherche de ma propre écriture. Il y a effectivement le désir de se dire il faut faire quelque chose de différent. Mais bon, je suis pas. Voilà, je suis un besogneux quand même hein, de l'écriture. C'est très compliqué pour moi. Donc, effectivement, il y aura ce risque qu'il soit finalement assez proche du premier. C'est pour ça que je vais prendre un cadre historique très différent, en fait, je pense. Mais tant pis, je pense que ça fait aussi partie de la phase d'apprentissage de l'auteur. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aimerais pouvoir dire. Ce sera aussi surprenant sur un montage totalement différent, une écriture à phrases longues. Je suis limité par mon propre artisanat. En fait, moi, c'est drôle. Moi, vraiment, je suis un scientifique. Les gens ne réalisent pas. Je bosse, j'ai un Becherel. Je travaille sur mes accords de temps, mes relecteurs sur des fonds techniques. Je crois que ma plus beau compliment que j'ai eu, c'est voilà, c'est extrêmement littéraire comme roman. Ça me touche parce que je me suis. Absolument pas, puis je souffre hein, pour l'écrire. Ouais. Faire des phrases, c'est compliqué. Ouais, merci.
Une question, tu es rôliste, je crois.
Oui.
La phrase récurrente des cinq doigts d'Axel,
oui.
Ça m'a fait penser au genre de choses qu'on utilise en jeu de rôle pour incarner rapidement un personnage. C'était volontaire, c'est inconscient, c'est...
Alors c'est... Ah non, c'est très volontaire. C'est pas forcément lié au jeu de rôle, si on fait un parallèle encore, mais c'est tout ce qui est lié aux techniques d'impro en théâtre, qui rejoint le jeu de rôle, effectivement, quand on habite un personnage. C'est comment je caractérise rapidement un personnage, c'est une attitude, un tic, une façon de parler, un regard, un mot qui revient. Donc oui, il y a un peu de ça quand même. On peut le retrouver effectivement quand oui, on est autour d'une table à faire un personnage.
Oui, ça m'a rappelé des techniques de jeu de rôle.
Oui, oui, on est des techniques d'impro en tout cas, mais certainement, tout à fait.
Est-ce que Cédric Ferrand t'a relu ?
Non.
Non.
Non, non, on ne se relit pas.
Vous ne relisez pas
on
mutuellement.
On ne se relit pas, non, non. Mais qui sait, à un moment, on s'était dit, je devais proposer de faire quelque chose à quatre mains, qui sait si un jour il n'y aura pas quelque chose qui se fait. Ouais, ça, on verra. Là. Ben, merci.
Juste, encore une fois, j'ai pas lu le roman, le personnage féminin du mercenaire, c'est une truc qui commence à exister les mercenaires à l'époque ou
alors,
c'est toi
oui.
qui a vraiment voulu que le côté égalité actuelle qui a influencé ton...
Alors complètement, il y avait une double volonté dans le roman, c'est-à-dire l'écriture est hyper contemporaine, c'est-à-dire je ne recherche pas à avoir une écriture d'époque.
Voilà.
Et mon héroïne est une femme noire, à la tête d'une guilde d'assassins. J'ai un personnage d'Afrique du Nord qui est un personnage important. Je voulais que la mixité sociale, l'égalité sociale présente dans notre société d'aujourd'hui, elle transparaisse dans le roman. Quitte à ce que c'est absolument pas réaliste en termes.
Ouais, je pense que c'est pas réaliste.
Ah, ça n'est pas réaliste. Et c'est totalement assumé parce que j'en avais. En tant que lecteur, j'en avais assez de ne pas retrouver ça dans les romans. C'est-à-dire l'héroïne princesse blonde, la jeune magicienne ou l'archère elfe, belle fine élancée, c'est insupportable. Pourquoi on n'a pas la femme avec des mains épais, un vieux chevalier, mais vraiment un vieux, enfin voilà, qui n'est pas forcément très beau Pourquoi on n'a pas cette réalité du monde dans un roman de fantasy? Pourquoi il faut que tout le monde soit beau, que tout le monde soit blanc, que les femmes, c'est les princesses et les héros?
C'est tous les genres comme ça, entre la relation entre les deux hommes, justement, la femme noire. Moi, je suis allée avec mes gros sabots, je m'attendais à avoir tous les clichés. Là, je n'avais rien à aucun. J'étais vraiment perturbée, justement, à la fin, quand je faisais le bilan des personnages qu'on avait. Ça correspondait dans ma tête à rien de ce que j'avais pu lire dans mon genre. Et d'un côté, c'était déroutant, mais c'était très bien parce que ça changeait complètement. Ça déboîte.
C'était une volonté. Après, c'est un peu l'extrême inverse. Du coup, il n'y a pas de code. Le seul code, c'est le chevalier. D'ailleurs, souvent, le personnage qui est cité, c'est le chevalier parce que c'est le personnage auquel on se rattache.
Au final, ouais, j'en suis, c'est le premier blessé dans l'histoire. Un chevalier qui est blessé, mais c'est quoi? C'est très rigolo, ouais.
Et moi, ça a été ce qui était compliqué, comme je parle beaucoup d'intimité des personnages, autant les intimités des personnages masculins, ça n'a pas été trop compliqué, autant d'écrire avec sincérité des personnages féminins, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, je ne sais pas si c'est crédible ou pas à la fin. C'est compliqué, en fait, d'écrire, pour moi, pour un homme, écrire l'intimité d'une femme, ça a été très compliqué. Bon, je trouvais ça dur. Je ne sais pas si les auteurs femmes ont la même complexité avec les personnages hommes. Il faut que j'en discute, mais c'est vrai que c'était... Bonjour.
Un roman anglais avec un personnage de Ambre,
non, je connais Ambre de Zelazny, mais c'est pas ça.
C'est pas Zelazny. C'est un personnage, un petit mercenaire à l'époque du royaume de Bourgogne. Il y a une invasion de...
Alors voilà,
c'est ça.
Ah non.
Et ça s'explique.
J'ai bien la référence.
Ouais, ben, non, je ne me rappelle plus de rien.
Alors là, ça date un peu, c'est l'anglais.
Les cafés lèvent le doigt, s'il vous plaît.
1,
2, 3. T.
Mais non,
T et café, donc je fais ça.
J'ai désespérément essayé de comprendre l'ascendance africaine d'Axel. C'est son père, c'est sa mère, c'est les deux, c'est qui?
Ah ben, merci, parce que du coup, pour moi, c'est les deux. Ce n'est jamais donné, quand je dis jamais description, je laisse le lecteur. Mais évidemment, pour moi, c'est les deux.
D'accord.
Et vous n'avez pas peur qu'en faisant peu de description, justement, le lecteur ait du mal à...
C'est un risque, il y a des lecteurs qui m'ont dit... paradoxalement, moins m'ont dit qu'ils étaient perdus que ceux qui ont dit que ça leur allait plutôt bien. Il y en a qui m'ont dit que ça... Oui, ils étaient perdus sur... On ne sait pas qui c'est... Après, là encore, je suis en recherche d'écriture, peut-être que j'en ai vraiment pas mis assez aussi. À voir, je ne sais pas.
Je vous dirai.
Oui, tout à fait. Je vous fais un retour là-dessus.